Radio Kapi.
Bonjour à tous. Le titre de ce journal sur Radio Okapi, l'affaire qui oppose le député national Fabrice Puella à la présidente de l'Assemblée nationale devant le Conseil d'État est prise en délibéré. La décision du Conseil est attendue le lundi de la semaine prochaine. Puella reproche à Jeanine Mabunda la violation des dispositions de loi interne de la Chambre basse. Elle est déclarée finie, la 11e épidémie d'Ebola qui a sévi dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier mercredi 18 novembre. Ebola 11 a fait 55 décès, dont 2 personnels de santé et 75 personnes guéries. Le Royaume-Uni se félicite de la fin de l'épidémie d'Ebola annoncée par le gouvernement dans la province de l'Équateur et promet de continuer d'appuyer les structures locales et provinciales pour la surveillance post-Ebola. Emily Maltman, ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, est l'invitée de Radio Kapi ce matin pour en parler. Madame, messieurs, voilà pour les titres. Vous êtes les bienvenus à cette édition sur Radio Kapi. Justice pour ouvrir ce journal. Le Conseil d'État a pris en délibéré l'affaire qui oppose le député national Fabrice Puella à la présidente de l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda. Il a promis de rendre son ordonnance le lundi de la semaine prochaine. Ainsi, l'affaire a été déclarée close à l'audience publique d'hier mercredi devant la Chambre du Conseil. Les avocats de Mabunda ont plaidé pour l'irrecevabilité de la requête de Puella, tandis que ce dernier, lui, a rétorqué que leur argument était infondé. Reportage de Jeff Ngoy.
Nous sommes dans une audience de référé. Fabrice Puella demande au Conseil d'État de suspendre la décision de la commission de l'Assemblée nationale refusant la démission de son bureau et par ricochet de Jeanine Mabunda, soit de la destituer pour avoir violé l'article 139 du règlement intérieur de la Chambre basse. C'est sans intérêt ni qualité, attaquent les avocats de Mabunda, dont Papi Nyango.
Nous avons demandé au juge d'être assez vigilant parce qu'il statue sur une cause soutenue par des arguments et moyens frauduleux. Les défauts d'intérêt, parce que cette matière, ce débat, est dévolu à la plénière. C'est ce que le règlement intérieur dit.
L'avocat de Puella, Marcel Ntumba, contre-attaque.
C'est un argument qui ne tient pas debout. L'honorable Puella qui saisit, il est député national. Il a qualité pour venir devant la justice. L'Assemblée nationale, après avoir reçu la dotation et constitué son budget, doit présenter ses règlements financiers à l'Assemblée plénière. Le bureau de l'Assemblée nationale doit constituer une commission spéciale chargée de contrôler la dotation de l'Assemblée nationale.
La procédure devant le Conseil d'État en cette matière est un référé suspension, une procédure d'urgence et de raccourci souvent pour ne pas attendre l'issue d'une procédure d'annulation qui est longue et qui ne suspend pas les effets de l'acte attaqué.
Reprise des consultations hier mercredi au palais de la Nation après une trêve de 3 jours, le chef de l'État poursuit ses discussions avec les différentes représentations de la classe politique congolaise, de la société civile et aussi de plusieurs autres couches socio-professionnelles. Débutées depuis le lundi 2 novembre, les consultations visent pour le président de la République à prêter oreille attentive à toutes les suggestions dans le cadre de la mise en place de l'Union sacrée pour la Nation. Jacques-Yves Molima nous fait le point de cette reprise hier depuis le Palais de la Nation.
En effet, c'est cela l'objectif ultime pour le chef de l'État. Tout en se basant sur sa philosophie politique, à savoir le salut du peuple et la loi suprême, Félix-Antoine Tshisekedi attend mettre au premier plan, à l'issue de ses consultations, l'amélioration du vécu quotidien du peuple. C'est ce qui justifie à cet effet l'élargissement de son agenda aux consultations. À partir de ce mercredi, par exemple, l'agenda du chef de l'État prévoit les rencontres avec les caucus des députés du Sud Kivu et de la province du Maniema. Certaines personnalités politiques sont aussi attendues. C'est notamment les bâtonniers Jean-Claude Muyambo, Adam Bombo, le chef du parti politique Congo Nabisso, Kiakwama Kiakiziki, mais aussi Jean-Baptiste Bomanza. Et comme pour rester dans sa logique d'élargir son assiette, le chef de l'État devra entre autres recevoir le groupe des paysans kassaïens du Katanga et la presse légendaire du Congo. D'après certaines sources de la présidence, il faut dire que les consultations sont sur la dernière ligne droite cette semaine, quand bien même plusieurs autres regroupements sont toujours dans l'agenda du chef de l'État. Palais de la Nation, Jacques-Yves Molima, Aouta, Radio Kapi.
Et pour la journée d'hier aux consultations, le caucus des députés nationaux du Sud Kivu a demandé au chef de l'État de nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont formulé quelques demandes au président de la République, notamment sur des questions sécuritaires dans leur région. On écoute Hilaire Kasusa Kikovia, élu de Chabunda, au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous, députés de la province du Sud Kivu, on n'était plus d'accord avec les mariages FCC-CACH parce que ça faisait traîner les pas et ça entravait le développement de notre nation. Au-delà de cela, la province du Sud Kivu sollicite auprès de l'autorité de nommer le plus rapidement possible un informateur afin de mettre au point une majorité pour que le pays décolle et décolle une fois. Nous lui avions parlé de l'aspect sécuritaire. Nous avons des groupes armés étrangers et nationaux qu'on y mette fin une fois pour toutes. Et sur le plan social, nous lui avons fait voir qu'il serait important que cette gratuité d'enseignement qu'il avait initiée soit suivie et que le paiement des enseignants, NP, NU et les frais de fonctionnement de toutes ces écoles arrive à la destination. Et aussi, nous avions fait allusion à son collaborateur direct, l'honorable Vital Kamerhe. Il a été trop attentif à ces messages et nous espérons une suite favorable dans un avenir proche.
Le Front commun pour le Congo ne va pas reculer. Il ne participera pas aux consultations du chef de l'État pour la création de l'Union sacrée de la nation. Constant Mutamba, président de la NUGEC et membre du bureau politique de cette plateforme, a réitéré hier devant la presse l'appel de sa famille politique d'aller aux élections anticipées pour mettre un terme à la crise de légitimité des institutions provoquée par une tendance politique. On écoute Constant Mutamba au micro de Paul Matendo.
Les FCC restent attachés au respect de la Constitution, restent attachés jusqu'à preuve du contraire à l'accord de coalition. Donc tout schéma qui serait réfléchi, mis en place, devrait l'être dans le cadre de la Constitution. Il y a déjà une majorité qui a été constituée. Les institutions de la République ont été mises en place. Bon, puisque certains arguent qu'il s'agit d'un problème de légitimité, et donc si problème de légitimité des institutions il y a, il revient au peuple souverain de pouvoir nous départager, et non à un groupe des politiciens de pouvoir se réunir et puis décider à la place du souverain primaire. Et voilà pourquoi nous avons proposé comme alternative l'organisation des élections anticipées.
Le ministre de la Santé publique annonce la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Déclarée le 1er juin 2020, l'actuelle épidémie constitue la 5e dans le Grand Équateur et elle est survenue 2 ans après la précédente épidémie dans cette même province. Tout en soulignant que la maladie est arrivée dans un contexte particulier marqué par l'expansion de la pandémie du coronavirus, le ministre de la Santé invite la population au respect strict des gestes barrières, car si Ebola est pour l'instant vaincu, le coronavirus continue à faire des ravages à travers le monde et sur le continent africain avec une augmentation des cas en RDC, a-t-il souligné. S'agissant d'Ebola, le ministre en appelle aussi à la vigilance pour éviter que la maladie ne refasse surface. Suivez cet extrait du message du docteur Etienne Longondo adressé à la nation depuis son cabinet.
Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la République démocratique du Congo continue à faire face à la pandémie de la COVID-19. Pour vaincre ce fléau, la population congolaise est conviée à respecter scrupuleusement le geste barrière. De ce fait, nous rassurons la population de l'Équateur qu'une équipe continuera à soutenir le transfert de compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte et renforcer les systèmes de santé de la province. Ainsi, il leur est recommandé de continuer à maintenir le mécanisme d'alerte et de surveillance à base communautaire, enfin de rester vigilant pendant toute la période de la pré-épidémie de la maladie à virus Ebola.
Et s'agissant des statistiques, retenez que cette 11e épidémie de maladie virus Ebola dans la province de l'Équateur a affecté 13 zones de santé sur les 18 que compte la province. 42 aires de santé sur 284 ont notifié au total 130 cas, dont 119 confirmés, 11 probables. On a enregistré 55 décès, dont 2 personnels soignants et 75 personnes guéries. Je témoigne ma reconnaissance à toute l'équipe de la Riposte et je tiens à saluer l'engagement des communautés sans lesquelles l'épidémie n'aurait pas pu être contenue si rapidement. Déclaration du coordonnateur humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo après l'annonce de la fin de cette 11e épidémie d'Ebola. David McLachlan Carr salue aussi la collaboration étroite entre la RDC et la République du Congo qui a permis d'éviter que la maladie ne traverse le fleuve. Il félicite également le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que tous les partenaires locaux et internationaux qui ont lutté plus de 5 mois contre cette épidémie. Il faut à présent prendre en charge les orphelins et les survivants et survivantes qui doivent être soutenus, a-t-il souligné. À Goma, à présent, nous sommes dans le Nord Kivu. Le collectif des associations féminines pour le développement CAFED a lancé hier mercredi le projet « Protégeons-nous ». Tujikinke en Swahili. Ce projet, financé par la MONUSCO à hauteur de $45,000, vise à sensibiliser contre le coronavirus. Ce collectif vient de produire dans le même cadre un lot de 40 000 masques de protection. Quelques groupes de femmes sont particulièrement ciblés, dit la vice-présidente du CAFED, Isabelle Pendeza, au micro de Bernard Danyangi.
C'est un projet qui va prendre 3 semaines de sensibilisation, mais aussi des distributions gratuites de masques lavables. Et notre cible, il y a les jeunes, il y a aussi les femmes marchandes au sein de marché. Nous allons nous focaliser beaucoup plus dans la sensibilisation afin d'apporter notre expertise dans la communauté, mais aussi appeler la population à prendre aussi un engagement communautaire dans la lutte contre la COVID-19. Du fait que cette maladie n'est pas encore terminée, ce projet a été financé par la MONUSCO de par sa section des affaires politiques. En fait, les 40 000 masques qui ont été produits par les CAFED ne seront pas suffisants pour toute la population de Goma. C'est la raison pour laquelle nous plaidons encore une fois et nous appelons aussi aux autres partenaires de soutenir. Aujourd'hui, il y a encore une flambée des cas de coronavirus dans la République démocratique du Congo. Et nous devons apporter notre contribution afin de lutter contre cette pandémie qui est une maladie ravageuse.
Le ministre provincial de la Santé au Nord Kivu, qui a réceptionné ce lot de 40 000 masques, a rappelé que la RDC a déjà notifié plus de 50 nouveaux cas de contamination au coronavirus dans cette 2e vague de la pandémie. Voilà pourquoi il insiste sur la nécessité du respect des mesures barrières contre cette maladie. Le Kasaï est prêt pour le retrait de la MONUSCO. C'est ce qu'a fait savoir mercredi le coordonnateur humanitaire David McLachlan Carr au terme d'une visite de 3 jours dans la région où il était accompagné par l'ambassadeur suédois et de plusieurs responsables des agences des Nations Unies. Il annonce qu'une feuille de route sera établie pour renforcer l'assistance dans cette région du centre du pays qui a connu des terribles violences en 2016 et 2017. Écoutez David McLachlan Carr au micro de Joël Bofengo.
C'était une bonne mission avec la présence des chefs d'agence, des systèmes, mais aussi avec l'ambassadeur des Suède. Moi, je crois que oui, la région est prête pour la retraite de MONUSCO. On n'a pas beaucoup de temps. On va finaliser le retrait dans les prochains 8 mois. Mais je crois qu'avec le lancement de nouveaux programmes pour les Kasaï, à partir de janvier de l'année prochaine, on va vraiment avoir une feuille de route pour renforcer l'assistance dans ces 5 provinces. Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est une zone post-conflit qui reste toujours fragile, mais je crois avec l'assistance des bailleurs de fonds, avec plus de programmation pour la réconciliation, pour la paix, pour le développement et pour l'aide humanitaire, on va réussir dans les Kasaï.
Dans la province du Bandundu, à présent, nous sommes dans la province du Kwilu. Le mouvement citoyen, témoin du développement du Congo, exige l'annulation des factures de consommation de l'électricité émises par la Société nationale d'électricité pour le mois d'octobre. Pour son coordonnateur Trésor Missingu, une panne technique a privé la ville de l'énergie électrique au cours de ce mois d'octobre. Trésor Missingu, au micro de Irène Boma.
Nous avons réagi en écrivant à la Société nationale d'électricité, SNEL, exigeant d'annuler les factures de consommation de l'énergie électrique du mois d'octobre à Bandunduville. Cette période à laquelle la ville de Bandundu a été victime d'une coupure de plus de 10 jours pendant les 30 que compte les mois, cette coupure due à une panne technique intervenue sur la ligne de transport Inga-Maluku. Mais curieusement, la Société nationale de l'électricité, SNEL, a procédé à facturer ces mois normalement comme tout autre mois dont la fourniture en électricité est de 30 jours sur 30. Et cette facturation forfaitaire est prohibée qui viole les dispositions de l'article 27 de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité qui dit toute vente d'énergie doit être facturée sur la base d'un compteur calibré et en bon état de fonctionnement.
Actualité internationale.
À l'international, sachez que les écoles publiques de la ville de New York, qui avaient rouvert après beaucoup d'hésitations fin septembre, vont refermer à partir de ce jeudi après que le taux de positivité au COVID-19 eut atteint les 3%. Nous avons atteint le seuil de 3% de positivité de tests. Malheureusement, cela signifie que les établissements scolaires seront refermés à compter de ce jeudi 19 novembre par mesure de précaution. Mercredi, le maire Bill de Blasio. L'invité de Radio Okapi ce matin est Madame Emily Maltman, ambassadeur du Royaume-Uni en RDC. Le Royaume-Uni qui se félicite de la fin de l'épidémie annoncée par le ministre de la Santé dans la province de l'Équateur et dit continuer son appui aux structures locales et provinciales pour la surveillance post-Ebola. Madame Emily Maltman s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Emily Maltman, bonjour.
Bonjour.
Le ministre de la Santé vient de déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola à l'Équateur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, madame, après l'annonce de cette bonne nouvelle?
D'abord, je veux féliciter le gouvernement congolais à mettre fin à cette épidémie Ebola en Équateur, mais aussi de reconnaître le travail de tous les personnels de santé qui étaient en première ligne dans la riposte. Et nous félicitons la riposte et nous sommes toujours là à côté du gouvernement pour continuer la surveillance avec cette épidémie.
Mais la fin de cette épidémie, c'est bien, mais tous les partenaires conseillent bien sûr la vigilance, comme vous l'avez dit, pour ne pas tomber dans la situation de l'Est où il y a eu la résurgence de cette épidémie. En quels termes peut s'exprimer votre appui maintenant pendant la période de post-Ebola à l'Équateur?
Oui, alors nous continuons notre appui à la riposte pendant 90 jours, pendant 90 jours, pour une surveillance intensive. Et c'est très important parce que cette épidémie, c'était dans une zone géographique très large, avec difficulté d'accès. Donc c'est très important la surveillance maintenant, mais on espère, fin de 90 jours en plus, on peut être sûr que c'était mettre à fin.
Qu'est-ce que vous allez faire concrètement en termes d'appui?
Notre appui continue de garder les centres médicaux en bonne hygiène et travailler contre la propagation d'une maladie. Et aussi, nous travaillons avec les communautés, avec la sensibilisation et aussi les familles qui étaient touchées par cette épidémie.
Madame, vous étiez sur le terrain à Mbandaka, à l'Équateur. Et quelles sont les difficultés que vous avez trouvé sur place et maintenant que l'épidémie a pris fin, comment est-ce que vous les avez surmontées, ces difficultés-là?
Alors, c'était clair dès que nous étions sur le terrain qu'il y avait les grands défis en Équateur. La province est très large et il y a beaucoup de problèmes d'accès, même avec les fleuves et plusieurs rivières. Donc, la question maintenant, c'est le renforcement des capacités du système de santé au Congo. Et ce qui est important, c'est dans tous les ripostes avec une épidémie, mais aussi dans les temps normaux, qu'il y a un bon utilisation des fonds publics pour que les soins soient sont à côté de la population.
Si aujourd'hui on parle d'Ebola, qui est vaincu à l'Équateur, bien entendu, il y a la pandémie de la COVID-19, dont on craint ici à Kinshasa et partout dans le pays, l'avènement de la deuxième vague. Que peut-on attendre de la coopération britannique, en termes bien sûr d'appui à l'équipe de la Riposte et au gouvernement?
Oui, c'est vrai que nous sommes toujours inquiets qu'il y a la possibilité d'une deuxième vague ici en RDC. Mais ce qui est important, c'est de continuer tous nos gestes barrières, de porter les masques, de garder la distinction comme nous aujourd'hui, et toutes les mesures préventives, en soins attentifs pour les plus vulnérables, les plus âgés, les diabètes, d'autres personnes avec des conditions médicales. Mais la pandémie COVID a affecté le Congo. Dans les autres façons, à part de la santé, c'est aussi un impact économique. Et nous sommes à côté des Congolais pour appuyer une protection sociale, aussi le renforcement des dépenses budgétaires, que l'État congolais puisse servir la population congolaise dans les temps actuels dans cette pandémie.
Oui, vous avez participé en appui à l'Équateur. À combien est-ce qu'on peut estimer la participation de la Grande-Bretagne dans la lutte contre cette épidémie en termes chiffrés?
Pendant cette épidémie, nous avons engagé 5 millions de livres sterling, donc c'est vers 7 millions de dollars pour cette épidémie. Et aussi, il y a beaucoup d'investissements dans l'épidémie à l'Est et aussi, avant cela, dans le vaccin. Nous avons dépensé déjà 100 millions de dollars pour mettre fin à l'épidémie à l'Est et investir dans le vaccin qui est très important maintenant dans l'épidémie à l'Équateur. Il y avait 40 000 personnes qui étaient vaccinées et ça a contribué beaucoup à mettre fin à cette épidémie en Équateur.
Madame Émilie Matman, je vous remercie.
Merci beaucoup.
L'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, Madame Émilie Matman, l'invitée de Radio Capi ce matin, répondait aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Capi. Vous voulez le réécouter, tapez www.radiookapi.net.